C'est officiel, l'Europe est à nouveau prise en sandwich entre l'Est et l'Ouest. Alors que la Russie amasse une petite armée à la frontière de l'Ukraine, les États-Unis tapent du poing, mais seront-ils suivis par leurs alliés européens cette fois? C'est la grande question. En attendant, les morts recommencent sur la frontière du Donbass. Au fait, bonne année et meilleurs vœux, bienvenue en 2022. Les discussions préliminaires entre les États-Unis et la Russie pour préparer le sommet du 10 janvier ne se sont pas super bien passées. Comme d'habitude, la Russie campe sur ses positions et les États-Unis sur les leurs. Les États-Unis menacent de nouvelles sanctions, tandis que la Russie menace de poursuivre l'escalade, entre augmentation des tarifs du gaz, coupure de gaz pendant l'hiver évidemment, et risque d'intervention armée en Ukraine mais encore ailleurs dans le monde. Bien sûr, il y a deux visions qui s'opposent. D'un côté, depuis la chute de l'URSS, les États-Unis s'étendent vers l'Est en Europe. Et le gros point de tension, depuis 2014 et la révolution de Maïdan, c'est le risque d'entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN. L'Ukraine, comme la Biélorussie, ça a longtemps été la chasse gardée de la Russie en Europe. Et comme c'est un pays avec beaucoup d'habitants et beaucoup de ressources, que la Russie considère sa propriété pour diverses raisons historiques, eh ben elle n'a pas l'intention de laisser faire. Depuis son arrivée au pouvoir, Poutine a été assez clair à ce niveau-là. C'est pas un point sur lequel il s'est radicalisé, même s'il s'est radicalisé sur beaucoup d'autres points, et s'il en est venu aux actions concrètes avec le temps. Pour lui, l'Ukraine fait partie de la Russie, et elle y reviendra tôt ou tard. Les Ukrainiens, eux, ne sont pas d'accord, en majorité. Surtout à l'ouest, où les Ukrainiens sont généralement catholiques et très influencés par la Pologne et pas par la Russie. Les réalités historiques sur lesquelles se base la Russie sont vieilles de plus de 800 ans. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Et l'Ukraine n'est pas vraiment prête à revenir sous le giron d'un pays qui a provoqué des famines et peut-être même un génocide sur son territoire par le passé. La question c'est jusqu'où est-ce qu'on va aller ? Le bouclier antimissile américain était déjà un point de tension. Aujourd'hui, les Américains menacent de renforcer leur présence dans les pays baltiques et en Ukraine et en Pologne. La Russie, de son côté, a amené 100 000 hommes à la frontière ukrainienne, mais il y a assez de matériel pour pratiquement un demi-million d'hommes, même s'ils n'ont pas amené ces troupes-là sur le terrain. Le fait de ne pas avoir amené ces troupes est peut-être rassurant, mais je sais pas vous, c'est quand même inquiétant. Mais bon, allez, je vais être sincère. De mon point de vue, la Russie n'interviendra pas. Et elle fait ce qu'elle fait depuis plus de 10 ans maintenant, et ce que d'autres pays plutôt mineurs font, comme la Corée du Nord quand ils veulent défendre leurs intérêts, ils mettent la pression sur leurs voisins. Et ils prennent des actions dangereuses qui forcent leurs voisins à venir à la table des négociations, ou bien à discuter de choses dont il n'était pas question avant. Déjà, le sommet du 10 janvier ne devait pas porter là-dessus à l'origine, mais sur les arsenaux nucléaires. La Russie a annoncé l'année dernière qu'elle allait moderniser son arsenal nucléaire. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans une grande puissance nucléaire depuis au moins 30 ans. Et en tournant les discussions vers le Donbass, la Russie fait d'une pierre deux coups. D'un côté, on ne va pas lui parler de son programme nucléaire, et de l'autre, les Américains sont apparemment enfin prêts à discuter clairement de la question de la Crimée et du Donbass. Dans le pire des cas, tout le monde restera sur ses positions, mais dans le meilleur des cas, ça ouvre le terrain pour des évolutions favorables à Moscou, si je puis dire. Pour Vladimir Poutine, il s'agit aussi de marquer des points et de se placer comme un homme fort. Tout le monde le voit plus ou moins comme un homme fort à l'ouest, mais dans son propre pays, c'est un peu en train d'évoluer. C'est sûr qu'il vieillit, c'est sûr qu'il a un taux d'approbation de plus de 60% encore, c'est assez énorme par rapport à nos propres démocraties, si on peut appeler la Russie une démocratie. Mais il y a 4 ans de ça, sa popularité était encore à plus de 80%, et les gens qui ont arrêté de le soutenir sont devenus des opposants. Quand on regarde les enquêtes de satisfaction, pour peu qu'on puisse leur faire confiance parce que celles de la Russie sont biaisées et celles des ONG ont des difficultés à se faire, et ben on voit que l'opposition au pouvoir a doublé. Et cette opposition, ça fait 10 ans qu'elle monte. Ça fait 10 ans que la Russie s'engage dans des projets internationaux assez contestés. Il y a eu la Géorgie en 2008, avec l'appropriation, sans le dire, de l'Ossétie et de l'Abkhazie. Il y a eu évidemment la Crimée et le Donbass en 2014. Mais on a tendance à oublier que les Russes sont aussi en Libye, bizarrement où ils travaillent avec les Français. On oublie aussi qu'ils sont en Syrie. On oublie qu'ils continuent de vendre des armements à des partenaires à travers le monde. Et généralement, les ventes d'armements impliquent des relations plutôt chaleureuse, et tout ça, ça inquiète l'Ouest. Et les sanctions qui ont découlé de ces inquiétudes, elles ont un peu profité à la Russie, qui a relancé son industrie, puisqu'elle ne peut plus se permettre d'importer autant qu'avant, donc elle doit produire sur place. Mais ça pose aussi problème, parce que les débouchés qui ont été coupés pour la Russie lui font gagner moins d'argent. La Russie était excédentaire il y a 10 ans, elle gagnait plus que ce qu'elle dépensait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Au cours des 2 dernières années, sa monnaie a perdu, je risque de dire une bêtise, mais je crois les 2/3 de sa valeur. Ce qui veut dire que pour les Russes, tout ce qui est importé, que ce soit en nourriture, en électronique, en voiture, ça coûte d'autant plus cher. Et les Russes souffrent actuellement. Donc il faut que le pouvoir montre qu'il y a des évolutions favorables. Parce que, soyons clairs, Poutine devient vieux, il est au cœur de nombreux scandales, il ne tiendra pas éternellement, même s'il pourrait être président jusqu'en 2036, on verra bien. Et tôt ou tard, sa succession va venir sur le tapis. Medvedev, qui était plutôt réformateur, relativement apprécié, n'est plus vraiment considéré depuis un moment. On est plutôt sur des personnages tout aussi radicaux que Poutine, et si Poutine veut réussir à le faire accepter, il faut qu'il montre que ce genre de politique a des résultats favorables pour les Russes. S'il n'y arrive pas, ça ne servira à rien. Et il y a un risque réel que la fin du pouvoir de Poutine, dans ces cas-là, mène à de sérieuses instabilités politiques en Russie, comme on n'en a pas vu depuis les années 90. Et quand on voit ce qui s'est passé dans les années 90, je pense que personne veut vraiment y arriver. D'ailleurs, Poutine n'est pas forcément en difficulté dans ses discussions. Est-ce que l'Union Européenne suivra les États-Unis sur ses discours? Ça reste à voir. D'une part, l'Union Européenne n'est pas conviée à ces discussions, donc on ne connaîtra pas son avis tout de suite. Et d'autre part, du coup, les décisions américaines qui sont prises là-bas pourraient être compromises par les retours de l'Union Européenne par la suite. Donc est-ce que la voix des États-Unis aura beaucoup de portée? Dans l'immédiat, pas vraiment. Il faudra attendre de voir ce qu'en pensent ses partenaires européens, et en particulier certaines des sanctions mises en avant par les États-Unis, si les choses devaient mal tourner aux discussions du 10 janvier, mettraient l'Europe en difficulté. On parle du pipeline gazier Nord Stream 2, qui a fait beaucoup de polémiques en Europe ces dernières années, mais actuellement l'Europe est déterminée à le voir terminer et à le voir fonctionner d'ici quelques années. Et si les États-Unis décident d'empêcher ce projet, l'Union Européenne ne va pas franchement bien le prendre. Est-ce que les États-Unis sont prêts à se mettre en difficulté avec l'Union Européenne juste pour bloquer la Russie dans le Donbass? C'est compliqué à dire. Joe Biden est très talentueux en matière de politique extérieure, il a déjà montré par le passé, mais est-ce qu'il est capable de faire cavalier seul sur ce coup-là? C'est difficile à dire. En plus de ça, il y a un quatrième acteur auquel on ne pense pas forcément quand on pense à la crise ukrainienne. Cet acteur-là, c'est la Turquie. La Turquie, c'est un partenaire plutôt frisqué de la Russie, historiquement. Mais les relations pourraient bien se réchauffer autour de l'Ukraine. Parce que la Turquie a elle aussi d'énormes problèmes en ce moment. Pareil, des sanctions économiques, un effondrement de leur monnaie, la baisse de popularité de leur président, Erdogan. Et donc, la Turquie aussi cherche à montrer à sa propre population, avant tout, qu'il lui reste du pouvoir, qu'elle a de la marge de manœuvre, qu'elle a les moyens de ses ambitions. Et si la Russie devait arranger les objectifs de la Turquie dans le domaine, puisque la Turquie s'est placée comme médiateur en Ukraine, s'il devait leur tendre la main, leur favoriser un peu la tâche, eh bien on pourrait voir un réchauffement des relations entre ces deux pays. Et ce réchauffement de relations, il pourrait avoir des conséquences très concrètes. Ça implique l'accès de la Russie à la Méditerranée, qui pourrait être garanti cette fois, et ça ferait longtemps que ça n'a pas été le cas. Mais ça implique aussi les actions russes en Libye, et les actions russes en Syrie. Ces deux pays sont considérés par la Turquie comme leur propre chasse gardée, ils ont des ambitions là-bas, surtout en Syrie. Et si les deux pays devaient devenir partenaires, ça pourrait changer beaucoup de choses. Pareil entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les deux sont soutenus par la Turquie et par la Russie, ils s'opposent sur ce terrain-là. Un arrangement entre ces deux puissances pourrait non seulement pacifier le Caucase, mais aussi relancer l'économie sur le terrain. Et bien sûr, un partenariat fort entre ces deux pays, ça aurait ses avantages indéniables, qui pourraient, peut-être, sauver la mise des deux présidents et de leur gouvernement à tendance autoritaire, voire très autoritaire. Donc voilà, l'Europe se retrouve à nouveau entre l'Est et l'Ouest, une enclume entre deux marteaux. Mais est-ce que c'est pour les raisons qu'on pense ? Est-ce qu'on est sous la menace des bombes, vraiment ? Les troupes sur le front ukrainien, oui, elles sont sous la menace des bombes. Est-ce qu'on est sous la menace des bombes, nous ? Je pense pas. Je pense que tout ça s'est mis en place pour relancer des discussions diplomatiques, pour faire avancer des projets. Et je pense qu'il faut attendre le soir du 10 janvier, peut-être le 11 janvier pour en avoir le cœur net, mais je suis prêt à parier que ça va finir sur une conclusion plutôt neutre, voire médiocre, mais qui aura de véritables implications sur le plan diplomatique. Que les troupes russes vont peut-être rester, mais certainement pas avancer. Et que les Américains vont peut-être rajouter quelques troupes en Europe de l'Est, mais qu'ils ne vont certainement pas prendre de sanctions très radicales contre la Russie. Et c'est tant mieux, parce que ça serait pas terrible de commencer 2022 sur une troisième guerre mondiale. Merci de m'avoir suivi pour le troisième épisode de la news. Encore une fois, j'espère que vous avez passé de superbes fêtes. N'hésitez pas à venir réagir à l'épisode sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Mastodon. Je vous souhaite une super journée, une bonne continuation, et on se dit à la semaine prochaine. Bye.